Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un courant assez particulier du catholicisme traditionnaliste. C'est le réseau autour de Mgr Marc Pivarunas et de la Congrégation de Marie-Reine Immaculée, la CMRI.
Exactement. Et pour ça, on va s'appuyer sur un article très documenté de Florian Rouanet pour Intégralisme organique. L'idée, c'est de décrypter un peu la structure, les figures clés de ce groupe.
Un groupe qui adhère à la thèse cédévacantiste, c'est bien ça?
C'est ça. Pour eux, le siège papal est vacant depuis Vatican II, en gros. Donc on va voir comment ils fonctionnent, comment ils maintiennent leur cohésion.
D'accord. On va donc regarder qui sont les principaux collaborateurs de Mgr Pivarunas, leur lien avec cette fameuse lignée Tuc, et puis leur attachement exclusif au rite tridentin. Bon, bah allons-y.
Alors, pour commencer, la CMRI, elle a été fondée en 67 aux États-Unis. C'est un institut religieux qui, d'emblée, rejette les réformes post-Vatican II.
Et leur position de base, c'est donc ce cédévacantisme.
Oui, et Mgr Pivarunas le dit clairement, hein. Pour eux, refuser François et l'Église conciliaire, c'est juste une conséquence logique de leur foi en l'infaillibilité de la papauté, de l'Église, telle qu'ils la comprennent, évidemment.
Et pour assurer la continuité des sacrements sans passer par Rome, ils utilisent cette lignée Tuc. Qu'est-ce que c'est exactement ?
En fait, c'est une série de consécrations d'évêques faites après le concile par un archevêque vietnamien, Mgr Go Dinh Tuc.
Sans mandat de Rome, j'imagine.
Ah oui, complètement en dehors du cadre officiel. Et la justification pour ceux qui reconnaissent ces sacres, c'est l'état de nécessité. Une sorte de situation de crise majeure qui, selon eux, les autorise à agir ainsi pour préserver la foi et les sacrements qu'ils estiment valides.
D'accord, c'est plus clair. Alors, au sein de ce réseau CMRI, Mgr Pivarunas, c'est la figure centrale. Mais il n'est pas isolé. Sur qui s'appuie-t-il principalement?
Alors, il y a un noyau dur. D'abord, Mgr Pivarunas Martin Davila Guandara, au Mexique. C'est Pivarunas qui l'a consacré évêque en 1999.
Oui.
Et il dirige une organisation là-bas, la Société Sacerdotale Trento. C'est vraiment un relais crucial pour tout le monde hispanophone.
Et lui-même vient de cette mouvance.
Oui, il a été ordonné prêtre par Mgr Carmona, qui était lui-même issu de cette lignée Tuc. Donc il y a une vraie continuité.
D'accord. Et puis l'article parle aussi de l'Argentine, avec les frères Espina.
Oui, alors là, deux figures. D'abord, Mgr Pio Carlos Espina. Lui, il a été consacré évêque très récemment, en 2022.
Par Davila.
Par Mgr Davila, oui, sur recommandation de Pivarunas. Il semble très très actif, il voyage pas mal en Amérique du Sud, même jusqu'aux Philippines, pour faire des confirmations, des ordinations mineures.
Les étapes avant la prêtrise dans l'ancien rite?
Exactement. Et puis il y a son frère, Julien Espina.
Lui, il est prêtre.
Oui, ordonné en 91, par Mgr Carmona aussi d'ailleurs. Il dirige un séminaire en Argentine, l'Institut Mater Dei. Son rôle a l'air plus doctrinal, plus dans la formation.
L'article le décrit comme discret mais important.
Voilà, important mais discret. Et l'article soulève une petite question. Est-il vesté abbé ou a-t-il été consacré évêque aussi? Apparemment la source n'est pas catégorique là-dessus.
Intéressant. Et sur le fond, sur la doctrine, qu'est-ce que Pivarunas met en avant?
Des thèmes assez classiques du traditionalisme, la royauté sociale du Christ, l'importance de la charité, le renouvellement des promesses du baptême. Mais il y a un point assez étonnant qui est mentionné.
Ah bon? Lequel?
Il est dit que Mgr Pivarunas permettrait aux fidèles de recevoir les sacrements, par exemple la communion, de prêtres traditionalistes qui, eux, reconnaissent le pape François et le nomment dans la messe. La fameuse mention « unacum ».
Ah oui, ça c'est paradoxal pour un groupe cédévacantiste.
Oui, c'est surprenant. Ça peut sembler contradictoire avec le fait de considérer le siège comme vacant.
Comment l'expliquer alors? L'article donne des pistes.
Pas vraiment d'explication détaillée, mais on peut supposer peut-être une forme de... comment dire? De pragmatisme, pour ne pas isoler totalement les fidèles, surtout dans des endroits où il n'y aurait que des prêtres unacum disponibles.
Une sorte de souplesse pastorale, tout en maintenant la ligne dure au niveau institutionnel.
Peut-être, quelque chose comme ça, oui. C'est une tension intéressante, en tout cas.
Et au-delà de ce trio Pivarunas, Davila et Espina, il y a d'autres liens, d'autres évêques.
Oui, l'article mentionne des collaborations, mais plus ponctuelles, avec d'autres évêques tradis, comme Mgr Sandborn aux États-Unis ou bien au Brésil, en Afrique, mais a priori sans l'unité forte qu'on observe avec Davila et les Espina.
Et il y a une actualité qui montre leur présence en Europe?
Pour des confirmations notamment.
Ah d'accord. Donc, ça montre que ce réseau, via des abbés locaux qui adhèrent à cette lignée tuque, s'implante aussi ici.
Oui, de manière discrète, mais c'est une réalité.
Bon, alors si on essaye de résumer un peu, on a donc affaire à une structure qui est organisée, internationale, même si elle est restreinte.
Oui, et plutôt discrète.
La CMRI, avec Pivarenas, s'appuie sur des figures clés comme Davila au Mexique, les Espina en Argentine, pour assurer une continuité à la fois des sacrements et de la formation, selon leur vision cédévacantiste.
La dévotion mariale aussi, et il s'inspire beaucoup de figures comme Saint Cyprien pour penser l'unité de l'Église, mais une unité en dehors de ce qu'ils appellent les hérésies modernistes.
Leur action est vraiment guidée par cette conviction de devoir préserver ce qu'ils considèrent comme la vraie foi, les vrais sacrements, dans une période de crise de l'autorité.
Exactement. C'est ça leur moteur.
Alors, peut-être une dernière réflexion pour nos auditeurs. Ces groupes fonctionnent en marge de l'église majoritaire. Ils s'appuient sur des lignées épiscopales spécifiques, parfois controversées, comme celle de Tuque, pour leur légitimité. La question qui se pose, c'est, à long terme, comment l'autorité et l'unité peuvent-elles se transmettre et se maintenir dans ces réseaux parallèles ?
C'est une excellente question. Et elle reste largement ouverte, je pense.